שלום וברכה, שלום לכולם, ערב טוב, ערב טוב. Faites-moi un signe comme d'habitude pour me dire que tout le monde est là, que on m'entend bien et que donc on peut commencer. Voilà, petit signe. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Houston? On m'entend, Houston? Oula! Oula, là, c'est toi qui, Gérard, tu écris dans une langue qui me dépasse. Yofi! Alors, c'est parti. Alors, on y va. Alors, on est parti. Erev Tov les Koulam. Erev Tov les Koulam. On va essayer de parler un petit peu de Yom HaKippourim aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Donc, on va essayer de parler un petit peu de Yom HaKippourim aujourd'hui. C'est parti. Et la question que j'aimerais lancer ce soir, c'est une question qui nous concerne tous. Qui nous concerne tous, particulièrement, évidemment, dans notre période troublée de Corona, tout ça, mais une question qui nous concerne tous au niveau de Yom HaKippourim. D'habitude, là je viens de voir, mon frère m'a envoyé aujourd'hui que la synagogue de Buffo avait officiellement annulé les tfilotes de Yom HaKippourim. Ça me paraît complètement absurde, invraisemblable, à tous les niveaux. Hein, à tous les niveaux, Corona ou pas Corona, on trouve une solution pour faire les tfilotes. C'est-à-dire qu'on s'organise dehors. Les musulmans, ils n'ont aucun problème de prier dans la rue et ça ne dérange personne parce qu'ils ont peur. Il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir organiser des tfilotes dehors si tu as peur du corona. Voilà, il y a suffisamment, je trouve ça scandaleux, mais scandaleux, que les synagogues ferment sans proposer d'alternative. Je ne te dis pas qu'il faut contredire les recommandations du ministère de la Santé et tout ça, pas du tout. Je te dis que c'est à toi de faire preuve d'intelligence pour proposer une solution. Proposer une solution. Et tu ne vas pas me dire, alors je ne connais pas toutes les synagogues, hein, bien évidemment, mais tu ne vas pas me dire que dans la communauté, dans les gens qui sont habitués à venir dans ces synagogues, il n'y en a pas qui ont une cour, un jardin, un truc comme ça. Et même dans Paris, ouais, mais là, je ne jouais pas à l'envers, que tu ne peux pas t'organiser des petits mignanes. Dans la synagogue de Buffo, tu peux très largement mettre 10 personnes. Sans aucun problème, en respectant toutes les conditions. Ah, mais 10 personnes, comment tu vas faire le tri? Eh ben, tu fais pas le tri. Tu fais premier arrivé, premier servi, par exemple. Et tu t'en fiches de celui qui a payé ou pas payé. Mais tu ne fermes pas. Dis-toi bien qu'il y en a plein d'autres, il y a plein de gens qui ne savent pas prier chez eux. C'est complètement absurde. De fermer la chose. Il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution pour permettre aux gens de Yom Kippour. Encore une fois, en gardant à l'esprit les Hanchayot, bien évidemment. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, tout simplement parce que je voudrais qu'on parle aujourd'hui d'une notion très importante à Yom Kippour. Cette notion, elle s'appelle moi. Moi, moi. Oui, pourquoi je vous dis moi? Rosh Hashanah, on parle tellement pas de moi. À Rosh Hashanah, on parle de Ribono Shel Olam, de Dieu, de la Mlachat Hashem, le couronnement de Dieu, du monde entier. J'aimerais qu'on revienne à une perspective beaucoup plus... Et pour essayer de comprendre, qu'est-ce que ça me fait à moi, Yom HaKippourim ? Alors venez, on rentre dans le vif du sujet. On connaît tous, on a grandi en France... On était encore en France, certains d'entre nous. On connaît tous le fameux juif de Kippour. Alors, dans notre conception à nous, le juif de Kippour, c'est le mec qu'on voit une fois par an, à Kippour. Mais en vérité, on est tous des juifs de Kippour. Non, non, je ne fais pas allusion ici aux juifs de Kippour parce qu'on est tous des gens qui viennent. Non, non, on est tous des juifs de Kippour. Dans le sens où Yom HaKippourim a un lien avec tous les juifs, qu'ils soient à la synagogue ou pas, qu'ils soient religieux ou pas. Le Rav Tzvi Yehuda Kouk avait l'habitude de dire, on peut le retrouver dans les Humanat Iten, le Rav Tzvi Yehuda disait, qu'est-ce qui est mechaper be Yom HaKippurim? Yom Kippur, on l'appelle le Yom de la Kapara. Ma mechaper be Yom HaKippurim? Le Rav Tzvi Yehuda disait, Chazaratenu el Atzmiyutenu ze amechaper. À Yom Kippur, on revient à qui on est, profondément. Il est fait. On revient à qui on est. Mais Mazéomé. Alors venez, on va rentrer, mamache, dans le vif du sujet. Notre Kippour à nous n'a rien à voir, et je te le dis, avec le Yom Kippour de l'époque du Beth Amidash. Rien à voir. Nous, aujourd'hui, on passe notre journée à la synagogue. On est à la choule, machin, truc, on bosse comme des malades, on prie toute la journée. Mais à l'époque, ça ne ressemble pas du tout à ça, Yom Kippour. À l'époque du Beth Amikdash, il n'y en a qu'un qui bosse. C'est le Kohen Gadol. Les autres, ça ne bosse pas. Ah non, mais soyons sérieux. C'est là. Le Kohen Gadol, lui, il bosse. Le Kohen Gadol, lui, il bosse. Mais moi, je faisais quoi à l'époque? Venez, on revient en arrière. Venez, on revient et on est à l'époque du Beth Amikdash. Moi, j'habite à Jérusalem. Ah, mais non, j'habite à Jérusalem, c'est à Gamour. Ouais. J'arrive à Jérusalem. Qu'est-ce que je fais à Kippour? Eh bien, à l'époque du Beth Amikdash, tel que nous apprend la Mishnah dans Masoret Yoma, la majorité des gens qui habitaient à Jérusalem, ils venaient au Beth Amikdash pour voir l'ambiance. Grosse ambiance au Beth Amikdash à Kippour. C'est quoi, grosse ambiance? Ben, ça veut dire que le Kohen Gadol, il bosse, et les Kohanim aussi, ils bossent un peu. Ils font les corbanotes et tout ça, machin. Mais il y a du sport. Parce qu'on faisait des compétitions de Kohanim pour savoir quel est le Kohen qui monte le plus vite sur le Keresh, sur la pente du Misbéar pour faire le corban. Et les gens, ils venaient, ils s'ambiançaient. Alors oui, ils jeûnaient, mais ils s'ambiançaient. La Mishnah fait état aussi de gens qui n'habiteraient pas forcément à Jérusalem ou qui habiteraient, mais ils ont un champ. Et ils veulent être sûrs que personne ne va leur venir voler dans leur champ pendant Kippour. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils peuvent aller dans leur champ, surveiller. Et la Mishnah, elle pose la question, oui, mais le problème, c'est que ce champ, pour y arriver, il faut traverser une rivière. Ah, ouais, mais je parle de me mouiller à Kippour. Non, mais t'as le droit. Pour aller surveiller ton champ, t'as le droit, mais par contre, tu devras rester là-bas jusqu'à la fin de Kippour. Ça ne ressemble en rien au Yom HaKippourim que nous, on connaît. Mais alors, en rien, mamache. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller même plus long. Imaginons que moi, à Kippour, j'ai du mal à jeûner. J'ai du mal à jeûner, donc ce que je fais, c'est que je vais prendre un somnifère avant Kol Nidré et je me réveillerai après Neila. Voilà, comme ça, c'est réglé. Pas de problème. Est-ce que ça marche? Est-ce que it kaparti? Et là, je voudrais rentrer un petit peu dans le monde de la tshuva et de la kapara de Yom HaKippourim. Vous savez, le judaïsme, ce n'est pas magique. Bien sûr que non. Et pourtant, à Yom Kippour, il se passe un truc. Il y a des averot où même si je n'ai pas fait tshuva, à Yom Kippour, it kaparti. J'ai rien besoin de faire que j'ai reçu la kapara. De quoi on parle? Non, je suis très très sérieux. Nous dit le Rambam dans Ilchot Teshuvah, chapitre 1, à la Chabet. Seir amishtaleach lefi shehu kapara lekol Israël, Kohen Gadol mitvade alav al leshon kol Israël. Shenemar vetvade alav et kol avonot bene Israël. On dit le bouc émissaire que le Kohen Gadol il va faire, il amène la kapara à tout Israël. Moi, je me dis, en disant ça, je me dis, ok, mais il faut que les Bnei Israël, ils participent un peu, ils fassent tshuva. À la chabet. Seir amishtaleach mechaper al kol averot shebatorah, kalot vechamurot. Ben shavar bezadon, ben beshgaga, ben sheodalo, ben shelo odalo. Hakol mitkaper beseir amishtaleach. Toutes les averot, il y a une kapara grâce au bouc émissaire. Ça m'en précise le Rambam. Oui, mais si on parle de toutes les mitzvot, זה בתנאי שעשה תשובה. אבל אם לא עשה תשובה, Le mec, il n'a pas fait tchouva. Il a pris son somnifère, il est parti dormir. Lo asa teshuva, azma kore, veim lo asa teshuva, en aseir mechaper lo, ella la kalot. Attends, tu es en train de me dire que le seir, le bouc émissaire, il marche pour certaines fautes. Moi, je ne comprenais pas. S'il n'y a pas de tchouva, ça ne marche pas. C'est tellement logique que le Rambam te dise la tchouva, elle amène la c'est la pointe de départ de la kapara. Évidemment, il faut que moi, j'ai fait quelque chose, que j'ai bossé un peu. Là, on te dit non. Non. Il y a des mitzvot qui s'appellent mitzvot kalot, ou averot kalot, que si tu les as fait, tu les as transgressés, alors tu n'as même pas besoin de faire tchouva que tu as reçu la kapara. C'est quoi ces mitzvot kalot? Nous dit le Rambam. Il est. Ou même à kalot. C'est-à-dire החמורות הן העבירות שחייבים עליהן מיתת בית דין או קראת, ושבועת שווא ושקר. אוקיי? זה חמורות. תות למצוות כמו טרנסרס, חייב קראת ומיתה, ושבועת שווא ושקר. Alors, Alex demande, il y a des fautes qui ne sont pas pardonnées que avec la mort. לא נכון. לא נכון. C'est exactement dans ces halakhot-là que le Rambam fait allusion. Il y a une différence entre le pardon, c'est-à-dire la slicha, et la kapara. Donc le chilul Hashem dont tu parles, enon mitkaper atcheyamut, c'est l'avis du Rambam, Rabbeinu Yonah n'est pas d'accord, mais bon, disons, mais ce n'est pas une question de pardon. La slicha, elle arrive, c'est juste la kapara qui n'arrive pas. Ok ? Maintenant, ce n'est pas ça qui m'intéresse ce soir. Ce soir, ce qui m'intéresse, c'est l'inverse. Les calottes. C'est quoi les averot calottes? Mazé à calottes. Veshar mitzvot lota assez. Ou mitzvot assez chez en baem karet. Hem à calottes. Ah, évidemment qu'on ne parle pas de Ben Adam la Chavero. Bien sûr. Les averot Ben Adam la Chavero, de toute façon, il n'y a pas rien à chercher tant que tu n'as pas été demandé pardon à ton prochain, c'est évident. Non, moi je te parle de mitzvot kalot. Viens, maintenant je t'ai donné la définition dans le Rambam. Le Rambam il te dit, c'est mitzvot shem ben adam lamakom et qu'il n'y a pas de karet ou de mitat bet din et qu'il ne s'appelle pas le mensonge. Par exemple, mazé mitzvah kala en mitzvah tassé, kiddush. J'ai pas fait kiddush. Bitalti mitzvah tassé, kala. Ou alors, j'ai mangé du cochon. Zé mitzvot lota assé. Chez En Bochiouf Karet, c'est ce qu'on appelle mitzvah kala. Donc le mec, il bouffe du cochon. A Yom Kippour, il a pris son somnifère, il n'a pas demandé pardon pour son cochon. Ou mitkaper. Chez En Malomar, qu'il reçoit la slicha aussi. C'est-à-dire, comment c'est possible que j'ai mangé du cochon, j'ai même pas besoin de faire tchouva, et le Seir Amishtaleach, ça marche. Er Zeyechol Liot. Comment c'est possible que ça marche? Eh bien, c'est possible que ça marche parce qu'il y a quelqu'un qui bosse pour moi. Parce que quand on regarde les versets de la Torah, le Kohen Gadol, on a dit, c'est lui qui bosse, mais il ne bosse pas pour lui, il bosse pour moi. « Vechiper ala kodesh mitumot b'nei Israël, umipish'em lechol chatotam, vechen yaase lo el moed, ashochen itam betoch tumotam, vechol adam lo yebo be'ol moed, bevoel al-chaper ba'kodesh atzeto, vechiper be'ado ube'ad beto, ube'ad kol ke'al Israël. » Le Kohen Gadol nous dit dans le livre de Vaïkra, il bosse pour moi, moi je dors, lui il bosse pour moi. Aval mamash, c'est pas stam. Tu sais pourquoi il peut bosser pour moi? Viens, on va prendre quelque chose qu'on connaît mieux, parce que nous, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas la metziut du Bet Amikdash. La metziut. Itzumo shel yom mechaper, nous dit le Rambam. Comment c'est possible que ça... Yesh mashu beyom akipurim, qu'on appelle itzumo shel yom. Le jour en lui-même, il a une force particulière. Pourquoi? Parce que dans ce jour-là, le Kohen Gadol, il pense à moi. Vous savez combien de fois, là d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais s'il y a des gens qui ont besoin de dédier le shiur pour la refoua, pour les lo nishmat, évidemment que le shiur est dédié. Mais comment ça marche, cette histoire, par exemple? Venez, on arrive à quelque chose qui nous parle plus, on connaît mieux. Comment ça marche, le fait que je dédie le shiur, les fois de un tel, bat un tel? Ou alors, je fais des brachot, les fois de un tel, bat un tel? Comment ça marche? Mazal sipour, azé. C'est de la magie. J'ai fait une incantation. Parce que j'ai fait une incantation, un tel, je donne le pyjama de mes enfants. Oui, tout à fait. Tiens, je t'en prie, pyjama Aleph, pyjama Bête. Quoi? Attention, mon fils cherche son livre de halakha. Eh oui, attention, hop là, halakha, le Talmid. Bye bye.
Ça fait avec le Mahbelet.
Quoi?
Mahbelet. iPhone.
Je suis complètement méchouillé ici. Mon fils est parti en cacahuète complètement, je suis désolé. Tiens, vous pouvez sortir maintenant s'il vous plaît? Alel, tu peux sortir? Alel, tu peux sortir, Alel? Tu peux sortir?
Merci. Merci.
Hop là, les inconvénients du direct, les amis. À quand les cours à Midrashet Yehuda pour de vrai? Hein? Sans interruption? Quoi qu'il en soit. Comment ça marche? Je fais la tefila pour quelqu'un. En quoi ça va marcher? C'est une incantation? Non, c'est pas une incantation. Qu'est-ce qui se passe quand je prie pour un malade? Quand je prie pour un malade, c'est parce que je connais la personne. Et donc, je sais ce qu'il est capable de faire dans ce monde. Et je sais à quel point, quand il est malade, qu'est-ce qui manque dans ce monde. Et donc, j'ai dit, bon, si tu amènes pas la refoua de ce personnage-là, mais tu sais ce qu'il n'y aura pas dans le monde? Le monde, il va pas bien s'il est malade. Donc, j'ai besoin qu'il aille bien. C'est pas pour moi, c'est pour toi, Bichlal. Parce que tu l'as mis ici et il a un rôle à jouer. Pour l'instant, il ne peut pas le jouer, ce rôle. Alors, évidemment, plus tu connais la personne, plus ta tefila, elle va être effective, c'est sûr. Parce que lorsque quelqu'un te dit « tu peux faire le shiur, le ilou, nishmat » et que moi, je ne connais pas la personne, c'est moins fort. Mais pourquoi ça marche quand même? Parce que je connais celle, la personne qui connaît la personne. Et donc, je m'attache à cette personne-là qui, lui, connaît celui qui est malade. On apprend ça de Hana. Hana, c'est elle qui est malade. Enfin, malade, stérile. Et donc, elle vient voir Kadosh Baruch Hu, elle dit « Vatakom Hana, chave achla beshilo, vachave shato » ואלי הכהן יושב על הכיסא אל מזוזת היכל השם והיא מרת נפש ותתפלל על השם ובכה תבכה. מה זה ותתפלל על השם? קום על החולה. ותתפלל עליו. אלא פריה פור דיו. אלא פא פריה דיו, אלא פריה פור דיו. אני זאת אומרת, בואי נושא לא אילום, סטו קומפרן פאה. סיג'י פד אנפון, יא פד שמואל. פד שמואל, פד קורון מונד שאול, פד שאול, פד דוד, פד דוד, פד שלמה, פד שלמה, פד בית המקדש. C'est pas pour moi, c'est pour toi. En d'autres termes, le Kohen Gadol, ou mitpalel avouri, ou mechaper alai. Mais on a dit pour que ça marche, faut qu'il me connaisse un peu le Kohen. S'il me connaît pas, ça marchera pas. D'accord. D'accord. Alors comment on fait? On a dit, il faut qu'il me connaisse un peu, sinon ça ne marchera pas. La Mishnah dans Maseret Yoma. Premier chapitre, première Mishnah, deuxième Mishnah, troisième Mishnah. On nous explique comment le Kohen Gadol se formait à faire son boulot de Yom Kippourim. Et pour ça, on le mettait 7 jours en bidoud. Dans un autre cours que j'ai donné il y a une heure, j'ai expliqué la notion du 7e jour par rapport au 8e jour, tout ça, mais c'est pas de ça que je parle là maintenant. Je reviens très, 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 très terre à terre. Concrètement, halakhiquement parlant, ces 7 jours de bidoud, il n'est pas en bidoud. Il reçoit la visite des rabbanim qui lui expliquent comment il va devoir faire seder à avoda, comment il va bosser, qu'est-ce qu'il fait à Yom Kippour. Il y a plein de choses à faire. Donc il faut bien le mettre au parfum, il faut le former. Et moi, je dis, OK, pas de problème. Mais rappelons-nous une chose. T'es pas Cohen Gadol pour 2 ans. T'es Cohen Gadol à vie, a priori. Certes, tu vas être Cohen Gadol pendant 20, 30 ans. Alors, je veux bien que les 2-3 premières années, tu ne sois pas complètement rodé sur le boulot du Cohen Gadol et que tu aies des questions, machin, et que donc, il faut pas, c'est pas un luxe 7 jours pour préparer le mec. Pas de problème. Et moi, je regarde, je te donne un exemple bateau, tu vois. Moi, je suis le rabbin de ma communauté. Donc, le rabbin, il fait des trucs de rabbin. Tu vois, il sait faire des livrets Torah, il fait des tefilotes et tout ce que tu veux. Mais il y a des choses que je ne maîtrise pas tellement bien. Parce que c'est de tout temps pas le boulot du rabbin. Et c'est le boulot du gabaï. Enfin, le gabaï, il est parfait, il est professionnel. Dans quoi ? Dans tous les moments de Kaddish, les moments de Miché Bérach, les moments de « il faut rajouter un truc, machin ». Mais le gabaï, c'est toute sa vie, il maîtrise ça mieux que personne. Donc le gabaï, j'ai pas besoin de lui expliquer quand il faut rajouter un petit peu. Il le sait déjà avant toi. Il a fait ça toute sa vie, qu'est-ce qui t'arrive ? Le Kohen Gadol, quand il en est à sa 17e année de Kehuna Gdola, tu crois qu'il a besoin d'apprendre pendant 7 jours comment on fait la avodat Kohen Gadol ? Pas du tout. Il sait très bien ce qu'il faut faire. Ça ne va pas changer d'une année en année, donc il sait très bien ce qu'on a à faire. Donc, il fait quoi pendant 7 jours, alors ? Tu veux que je te dise ? Il apprend vraiment à être Kohen Gadol. Apprendre la avoda, c'est technique. Je te dis, 1 an, 2 ans, 3 ans max. Après, chaque année, 7 jours avant, Yom Kippourim, il apprend à être Behemet Kohen Gadol. C'est-à-dire, il va apprendre à l'échapper à l'alcool Israël. Il va apprendre à travailler pour chacun des Béné Israël. Quoi ? T'es en train de me dire que le Kohen Gadol, il doit connaître tous les Juifs ? C'est pas possible. Il connaît tout le monde. Alors, peut-être pas. Peut-être que le Kohen Gadol, il connaît pas tous les Juifs. Mais le Kohen Gadol, il connaît tous les Kohanim. Et les Kohanim sont répartis dans tout le peuple juif. Donc, c'est le boulot des Kohanim de venir lui faire un rapport 7 jours avant Kippour et de leur expliquer, voilà, alors qu'est-ce qui se passe ? Alors, voilà, Kohen, région, Mitzpé Ramon. Vas-y, raconte-moi un peu. Qu'est-ce que je dois savoir d'intéressant ? Hein ? Il y a des... Ouais ? Raconte-moi, fais-moi un topo. Et après, il recevra le Kohen de la région d'Elat. Et après, il recevra le Kohen. C'est ce qui a marqué noir sur blanc dans la Torah. Pashut. Comment elle s'appelle cette fête ? Cette fête, elle s'appelle Yom Kippourim. Nous, on l'appelle Yom Kippour. Je ne sais pas pourquoi. C'est en français, je ne sais pas. Yom Kippour. Mais le remet Yom Kippour. Ah, vas-y, Yom Kippour. Tu regardes la Torah. Vaidaber Hashem el Moshe le Mor, Sefer Vaikra. On te dit, Arbe Asor la Chodesh Asheviyazé, Yom Akipurim. Hou. Mikra Chodesh Yelachem, Venitem et Namshotechem, Vikrafte Michel Adad Lifni et Lichel Hashem. Chol Melachalot Asou, Betsem Ayom Azé, Ki Yom Kippourim, Hou. לחפר עליכם לפני השם עליכם, לא, לא, לא לכם, כי כל הנפש אשר תענה, אשר תעונה בעצם היום הזה, ונחרטה מהמאה, וכל הנפש אשר תעשה בכל מלאכה בעצם היום הזה, ועבדתי את הנפש האם מקרב עמה, כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם דורותיכם וכל משותיכם, שבת שבתו מלאכם, וניתם משותיכם, בתשעה בחודש, בערב, מערב עד ערב, תשפדו שבתכם. כמו לספר לפת? Yom HaKippurim, et non pas Yom Kippour. Nous, Mazé Omer, Yom HaKippurim, Ma Evdel ben Yom Kippour, le Yom HaKippurim, Klal Gadol Beyadenu, grand principe nous ont donné nos sages, que dans la Torah, dans le langage de la Torah, lorsqu'on parle au pluriel, c'est pour s'adresser à chaque individu. Lorsqu'on parle au singulier, c'est pour s'adresser au Klal Israël. C'est Yom Kippurim, Shel Kol Echad Ve'Echad. Et le Kohen Gadol, qui est celui qui bosse à Yom Kippour, Rim, c'est lui qui doit être conscient de qui est face à lui. À Rosh Hashanah, on ne s'est absolument pas rattaché à notre dimension personnelle. Rosh Hashanah, c'est Kulo Klal Israël. Yom Kippour, c'est ech ani mechubar la klal. Aval d'abord, ech ani. Yom Kippour, le Kohen Gadol, il s'occupe de toi, de moi. Ah, maman. Tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai quand il y a le Kohen Gadol. Quand il y a Yom Kippourim au Bet Amikdash. Quand il y a le Tseir la Azazel. Et donc, à ce moment-là, Itsumo shel Yom Mechaper. L'essence de la journée. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas Maosim, quand il n'y a pas de Bet Amikdash. Quand il n'y a pas de Bet Amikdash, kol echad ve'echad oved. On devient tous Kohen Gadol. Et on va tous bosser à ce moment-là ensemble. Le Kohen Gadol, lorsqu'il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il enlève sa tenue officielle de Kohen Gadol. Mais lorsqu'il bosse dehors, il met sa tenue officielle. Et avec sa tenue officielle, il a quoi ? Il a son choshen. Et à la choshen, ce pectoral, qui trouve comme ça dans la Sefer Shemot, Venasa Aaron et Shemot Bene Israël, Bechoshen Amishpat, al Libo Bevoel Akodesh, le Zikaron Lifne Hashem Tamid. Le Kohen Gadol, il se balade avec le choshen, c'est-à-dire tout simplement les noms des 12 tribus d'Israël. Une référence à chacun. Quand le Kohen Gadol, il peut faire ce boulot-là, très bien. Moi, je peux aller garder mon champ et regarder les compétitions de Kohanim. Mais quand le Kohen Gadol, il n'est pas là, c'est à moi de remplir ce rôle. Et comment je fais pour remplir ce rôle ? Pas shoot. Je prends conscience, pendant tout Yom Kippour, que Gamani Chelek Me'amarechet Agdola. Que moi aussi, je fais partie, en tant qu'individu, à ce tout qui s'appelle le peuple juif. Ken, 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 ani katan. Avala katan azé chashuv. C'est exactement ce que nous disons dans la tfila de Yom Kippourim. Dans la tfila de Yom Kippourim, après avoir dit al-chet, 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 je viens et je dis, bon shel olam, Elohai, at shelo notzarti eini kedai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ad shelo notzarti eini kedai. Tant que je n'ai pas été créé, je ne valais pas le coup. Je dis le Rav Kook, dans Enaya, sur le Maseret Brachot, Chelek Bet, dit comme ça, lifnei yetzira, lifnei yetzirati, ודאי כל אותו הזמן הבלתי מוגבל שמעולם עד יצירתי לא היה דבר בעולם שהשם התבח, שהשם סליחה, צריך לי. שאם הייתי חסר לאיזה תכלית והשלמה, הייתי נוצר. וכיוון שלא נוצרתי עד אותו הזמן, הוא עוד שלא הייתי כדאי. עד אז, להיברות. נדיל הרב קוק, זה כבר עד שלא נוצרתי לי כדאי. C'est depuis le Big Bang jusqu'à ma naissance, ça m'est passé du temps. Enfin, pendant tout ce temps-là, Dieu, il n'a pas eu besoin de moi. Il ne pensait pas que j'avais, moi, quelque chose à remplir, un rôle à jouer dans cette histoire. Aval! Velo yatzor erbi! Kim le'etz kazot shenivrati. Mipnei shehigia ha'sha'a she'ani tzarich la'asot eize davar la'ashlamat ha'metziut. Ve'im hayiti miyached ma'asai el tachlit briyati, הנני עכשיו כדאי, אבל כיוון שאין מעשי הולכים לתכלית הטוב, כי אם לבצעו לשירות הלב, הרי לא הגעתי על התכלית, אם כן איני עדיין כדאי, כמו שקודם לכך. דיל הרב קוק, עד שלא נוצרתי עונה קומפרי, איני כדאי, תונג שפה תקרה, ג'וי סליבוי סומרה, אבל עכשיו, סישוי נסק, ג'וי פפיס פסד מועל, הפרוח שאני, ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי, פסקות שירו בלי פטרול, Tu viens de dire Al-Khet, 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 donc tu viens de montrer à quel point tu as fauté. Donc tu n'es pas celui que tu devrais être. Donc tu dis, je suis Kedai, Aval Befal, Anilo Kedai, parce que je ne fais pas ce qu'il faut. Donc Anilo Tseliot Kedai. Anilo Tseliot Kedai. Yom Kippourim. Zebidiou Kazman. C'est le moment où je prends conscience à quel point Ani Khashoggi. אני חשוב. אין. אני חשוב parce que je fais partie moi aussi de cet ensemble qui s'appelle le peuple juif et que sans moi, cet ensemble est chasser. À Rosh Hashanah, on n'a parlé que de l'ensemble. Yom Kippourim, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'individualisme. Parce que cet individu, il doit s'inscrire dans quelque chose de plus grand. Mais on ne peut pas l'oublier non plus. L'individu doit prendre sa place parmi le collectif à Yom Kippourim. Et comme je vous ai dit, l'individu, à l'époque du Beth Amikdash, il ne passait pas sa journée à la synagogue. Alors, qu'est-ce qui était la chose qui l'intéressait le plus? Quel était le truc que l'individu il voulait faire à Kippour? C'était quoi le moment le plus fun de Kippour? Ah, mais je vais te dire. Le moment le plus fun de Kippour, c'est pas shoot. C'était pas tellement les compètes de Kohanim que j'ai dit ce matin, enfin, que j'ai dit tout à l'heure, qui était le matin. C'est pas tellement de voir le Kohen Gadol qui rentre et qui ressort. Sois honnête, le plus fun, c'est d'accompagner l'autre Kohen qui va emmener le Seir l'Azazel. Ça, c'est du sport. Et là, je voudrais qu'on s'arrête deux secondes sur ce bonhomme. Le Kohen, qui n'est pas le Kohen Gadol, qui va amener le Seir l'Azazel. Et on a dit, c'est ce Seir-là qui va les chaper à l'ail. Seir l'Azazel. C'est un truc de malade, ce Seir l'Azazel. Comment ça marche? D'après la halakha, le Kohen qui était mémouné au Seir l'Azazel, il le prend du Beth Amikdash et il l'emmène. C'est Yom Kippour, les gars, il fait chaud. Et il est obligé de se trimballer un bouc, et pas sur 100 mètres. Hein. Il marche à peu près 12 kilomètres. Et il sort de Jérusalem, il va dans le désert, à Michmash, par contre, terre. Béretz Gezera. Attends, c'est pas possible. On dit la Mishnah, la Halakha, qu'il y avait tous les kilomètres des Sukkot avec à manger et à boire où le Kohen pouvait se restaurer. On dit la Mishnah, il y a un miracle, il n'y a jamais personne qui a eu besoin. Mais techniquement, il pouvait. Et toi, tu vas là-bas et tu veux regarder cette histoire. Comment on balance le Seir, la Azazel, du haut de la montagne. Vemit Kaprim Kol Avonot Israël. J'aime bien l'idée, mais quand tu regardes un petit peu les versets qui parlent du Seir l'Azazel, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Velakach et Shnei Aseirim, toujours dans le livre de Vaikra, chapitre 16, l'Echa. Velakach et Shnei Aseirim, Vemid Otam Lifne Hashem. Ils sont identiques, les Seirim. Petacho El Moed. ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות. ותראה אוסור. גורל אחד לשם, וגורל אחד לעזאזל. גורל אחד לשם, ואחד לעזאזל? Vous entendez ce qu'on dit? On est en train de mettre une identité en parallèle avec Hachem. Tourne-la dans tous les sens que tu veux. Goral echad l'Hachem et Goral echad l'Azazel. Comme s'il y avait Hachem et Azazel. Ça a dérangé tellement de rabbins qu'il y en a qui ont dit non mais Azazel c'est le nom de l'endroit. Alors, à ce moment-là, tu aurais dû dire Goral Echad la Mikdash, mais Goral Echad la Azazel, ça ne marche pas ton histoire. Quoi, le judaïsme, il croit en une dualité, deux dieux, un bon, un mauvais? C'est quoi cette histoire? Il y avait, comme ça, il y a 2000 ans, une secte juive qui s'appelait les Esséniens, Issiim. Alors, certains chercheurs disent que non, ce n'est pas les Issiim. La secte, c'est ce qu'on appelle la secte du désert de Judée, la secte de Qumran. Azov, c'est du kif-kif. Les Esséniens, bon, ils habitaient à Qumran, les mecs, c'est sur le bord de la mer Morte. Je peux t'assurer qu'à un moment donné, le soleil, il leur a tapé sur la tête. Hein. Parce que ces mecs, ils sont arrivés quand même à un stade. Alors, ils faisaient quoi toute la journée, ces Issiim? C'est pas compliqué. Ils se trempaient dans le mikvé et ils écrivaient. Ils écrivaient quoi? Ben, les Megillotes de Yam HaMelach. C'est-à-dire, ils écrivaient quoi? Ils écrivaient trois sortes de livres. En fait, quatre. ils écrivaient la Bible, retranscrivaient la Bible. Ils écrivaient des livres ésotériques. Ils écrivaient les codes de leur vie en société. Et un quatrième texte. Parmi les codes de vie en société chez eux, ils ont mis leur en place leur livre le plus important, qui s'appelle Megillat Bnei Haor Neged Bnei Hachosher. Le livre des fils de la lumière contre les fils de ténèbres. Alors là, c'est bon, là, t'es chaud pour... Ah, tu peux lancer un film, là. Là, tu peux Hollywood, là. C'est parti. Les fils de la lumière contre les fils de ténèbres. Eh, mec, ils ont eu chaud. Ils ont eu chaud, qu'est-ce que je te dis ? Et là-bas, ils te disent qu'il y a deux dieux. Il y en a un bon, le dieu de la lumière, et il y en a un mauvais, le dieu des ténèbres. Pour l'instant, c'est le dieu des ténèbres qui gère, mais tu vas voir, le dieu de la lumière, il va venir et il va tuer tous les mécréants, et seuls ceux qui seront purs, eh ben, ils seront sauvés. C'est pour ça qu'il fallait omigrer tout le temps. Ouais. C'est pas très très juif. Bon, c'est quoi le dernier texte ? Si déjà on est là, hein, entre nous. Hein, pour le kiff. Non, juste pour le kiff. Rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Le dernier texte, c'est un texte qui est écrit sur un rouleau de cuivre. Megillat Hanechoshet. Et quand on a découvert ce texte, d'ailleurs de manière absolument incroyable, quand on a découvert ce texte et qu'on l'a déroulé et qu'on a pu lire ce qu'il y avait marqué dedans, on a vu qu'il y avait la liste d'un trésor, d'objets de grande valeur. Et quelque part, le moyen d'y arriver. Pour la majorité des archéologues, il s'agit d'un inventaire de trésors qu'il y avait à l'époque du Deuxième Temple. Mais il y a un archéologue qui n'est pas d'accord. Je te parle, on est dans les années 70. Il y a un archéologue qui n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, et lui, il ne pense pas que c'est les trésors du Deuxième Temple qui sont mentionnés, mais lui, il pense que c'est le trésor du Premier Temple qui est mentionné. C'est quoi le trésor du premier temple ? Eh bien, c'est Aaron Abrit, qui a disparu à l'époque de Yoshiyahu Melech Yehuda. Et il commence à être appuyé par son université aux États-Unis, et il vient faire des fouilles, et il cherche l'Aaron Abrit. Il ne trouve pas. Au bout de 7 ans de fouilles, son université, elle le lâche, il n'a rien trouvé, et il dit laisse tomber. Il réussit à avoir des donateurs privés, qui sont des chauds patates, et il refouille pendant 7 ans. 14 ans ont passé, il n'a rien trouvé, le mec. Mais rien. Et donc, il abandonne. Bah, il n'a plus de crédit, ça coûte très cher des fouilles, laisse tomber. Et il se prépare à rentrer en Amérique. Il rentre là-bas, et alors qu'il a prévu de retourner à l'université et enseigner, et tant pis pour son rêve, il fait la rencontre d'un mec, un petit jeune comme ça, qui lui dit « Shalom, hello. J'ai appris, je connais tous vos travaux, j'ai lu tous vos travaux, vous m'intéressez beaucoup. Je suis réalisateur à Hollywood. » Et je prépare un film. Et je voudrais que vous deveniez consultant sur mon film. Au fait, je me présente. Steven Spielberg. L'archéologue se présente. Il s'appelle Whitney Jones. Et avec Steven, ils vont créer un personnage qui s'appelle Indiana Jones. Et quel est le premier film ? Les aventuriers de l'Arche perdue, suite à la découverte de Megillat Hanechoshet de Qumran. Bon, ça, c'était juste pour le kiff. Ah, cadeau. C'est cadeau. Megillat Bnei Haor Bnei Hachosher, c'est pas juif. Les gars, nous, on ne croit pas qu'il y a deux dieux. C'est Echad Lachem, Echad Lazazel, Mazé. Mazé Azazel, Bémet. C'est évidemment pas une autre divinité. Mazé Azazel, on dit Agmara Maseret Yoma. Azazel, Makom, Akashé, Beharim. Yechol, Beyishuv, Talmud Lomar, Amidbara. Minayin, Shaya, Batsuk, Talmud Lomar, Aleretz Gezeira. Mais c'est Azazel, comme son nom l'indique. C'est Az-A-El. En français, Azazel, c'est toutes les forces primaires qui nous viennent d'Akadosh Baruch Hu. Les forces de Azout. Quand je dis force primaire, je ne parle pas négativement. Je parle de force primaire, première. Pas encore domptée par l'intellect, la réflexion, les instincts. Les plus primitifs, les plus premiers, les plus barbares. Barbares pas dans le mauvais sens, barbares dans le sens avant la civilisation, j'ai des instincts. Par exemple, à Rosh Hashanah, dans ma synagogue, le premier jour de Rosh Hashanah, les sifrei Torah sont tombés. Alors, pas vraiment tombés, vous inquiétez pas, tout va bien, mais ils ont glissé. On m'a raconté, moi j'étais dans la synagogue des Sfaradim, parce que ma communauté se divise en deux parties pendant Rosh Hashanah. On m'a raconté qu'à ce moment-là, il y a certaines personnes qui n'étaient pas très loin du Haron ont bondi pour les rattraper. Non, ces gens qui ont bondi pour les rattraper, c'est des gens qui ont plus 20 ans. Et c'est des gens que quand tu les appelles à la Torah, ils mettent 3 heures pour venir parce que c'est difficile de marcher. Mais là, ils ont bondi. Là, il n'y avait plus d'arthrose. C'est ça, les instincts primaires. C'est Azazel. C'est Kohot. Que tu ne te rends pas compte. Que, gaffe, quand tu es hyper énervé, que tu fais preuve de violence, qu'elle soit verbale ou physique, qui est complètement interdit, bien sûr. Eh bien, c'est ça, ces forces-là. Elles sont en toi. Ces forces barbares, primaires, bestiales. Il y a plusieurs façons de leur faire face. Tu peux leur faire la guerre. Et tu vas perdre. Tu vas perdre parce qu'elles utilisent des stratagèmes qui sont plus forts que toi. Ou alors, t'en fais des alliés. Tu les contrôles et tu ne les laisses pas te contrôler. À propos de Azazel, nous dira le verset de Michelet. Im ra'ev sona acha achile u lechem. Veim tzame ashke u maim. Ki gechalim atachote al rosho. Si ton ennemi est affamé, nourris-le. Comme ça, il saura d'où lui vient sa force. Et tu deviendras son patron. Azazel, qui a donné l'ordre de nourrir Azazel? Kadosh Baruch Hu. Le fait que ce soit Kadosh Baruch Hu qui donne l'ordre de nourrir Azazel nous montre bien que même ces forces-là sont sous sa domination. C'est exactement ce que nous explique le Sefer HaTanya dans le chapitre 6, 7 et 8. Moi, Zaken, le Rabbi Shneur Zalman de Ladi, c'est exactement le principe, tu as raison Laurence, c'est le principe de Maïm Machronim. C'est le principe de Maïm Machronim que je donne un peu à boire aux Kochot Atuma, Nachon, pour les nourrir, leur montrer qu'elles ont une importance, mais que c'est moi qui les gère. Le Rabbi Shneur Zalman de Ladi, l'Admor HaZaken, dans son Sefer HaTanya, chapitre 6, 7 et 8, alors que dans tout le début du livre, jusqu'au chapitre 5, il nous a parlé de la Nefesh HaElohit, et bien après, il nous explique qu'il y a de la même façon qu'il y a la Nefesh HaElohit, il y a également la Nefesh HaBehemit. Et que de la même façon que la Nefesh HaElohit, elle est formée de plusieurs paliers, bien la Nefesh HaBehemit également. Et là, nous dit-il, « Veine ze leumat ze asa Elohim » כי כמו שנפש אלוהית כלולה מעשרה ספירות קדושות ומתלבשות בשלושה לבושים קדושים, כך הנפש דה סיטרה אחרה, זאת נפש הבהמית, מקליפות נוגה מלובשת בדם אדם כלולה מעשיך כתרין דה מסעבותה. דיל אדמור הזקן, לנפש הבהמית, ספורס בסטיאל אנימל פרימר, cette nefesh behemit, elle aussi, elle a plusieurs paliers. Alors, elle en a trois que tu ne peux pas utiliser, qu'il faut vraiment rejeter. Ce sont trois parties qui sont vraiment trop proches du mal. Ce sont ce que le prophète Yechezkel appelle dans sa première prophétie, « Anan gadol, roar seara, ve'esh mitlakachat ». Un grand nuage, un vent tourbillonnant et un feu dévorant. Trois dimensions qui sont complètement dans le Klipot HaTouma et qu'on n'arrive pas à gérer. Mais la Nefesh HaBehemit, elle est surtout faite d'une quatrième Klipa qui s'appelle Klipat Noga. Et Klipat Noga lo saviv. Il aura. Elle est Krova, elle aura. Elle est le Yetzer Hara. Elle veut kiffer. Tu peux être en guerre avec elle et elle va trouver ses alliés dans les trois autres. Et tu vas perdre. Ou alors, tu peux décider de lui donner à manger. À Valbik Doucha. Tu lui dis, tu kiffes le burger ? Il n'y a pas de problème. Viens, on se fait un Sioum Maseret et on va te faire un burger de la mort. Et elle dit, ok. Parce qu'elle veut le burger. Et à la derrière, elle te donne les forces de faire ton Sioum Maseret. J'aime cultiver mon corps. J'aime faire du sport. Éphémère. C'est pour faire des photos, Insta et tout? Ou c'est pour aller dans une unité d'élite et protéger le peuple juif? Ah bah dans les deux cas, tu devras faire du sport. Mais Yom HaKippourim, Toi, t'es chachouv. Et toi, donc, puisque t'es chachouv, tu prends tes responsabilités. Et une fois que tu as pris tes responsabilités, alors Chazal disent, ok, donc on va te permettre de faire quelque chose qui a priori est interdit. De toutes les parachiotes de la Torah, il a fallu que Chazal, à Mincha de Yom HaKippurim, il décide qu'on lise Parashat HaArayot, la section qui parle des relations entre un homme et sa femme et les relations interdites. Ma, t'avais pas autre chose? D'autant plus qu'a priori, la Mishnah dans Maseret Chagiga au chapitre 2, verset 1 nous dit « En dorshim be'arayot bishlosha » Donc certainement pas devant la synagogue non plus. « En dorshim be'arayot » Tu vas faire un shiur klali sur les relations intimes entre les hommes et les femmes, ce qui est permis, pas permis. « Pasnish » comme on dit en arabe. Hein? « Seir » égale « racha » Waouh. J'ai pas compris, Maurice. Désolé. Alors, attends. Il représente cette nefesh behemite. Ah, le seir, oui. Non. Le seir ressemble au steak que je donne à Azazel, qui, lui, est le représentant de ma nefesh behemite. OK? Mais qui te sourd? Une fois que j'ai fait ça, que j'ai jeté mon seir là à Azazel, que je suis conscient que mes forces les plus primaires, je peux les utiliser. Bikdusha, il n'y a pas de force plus première que les pulsions qui m'attirent vers une femme. C'est les pulsions premières qui vont amener vers la reproduction de l'espèce. Une fois que tu as jeté ton seir là à Azazel, à Mincha de Yom HaKippurim, on te dit Pseder, Asur le Lamed, Sitre Arayot, Bishlosha, Aval Arshav, Arshav Moutar. Arshav Moutar, parce que vous n'avez tous compris comment est-ce qu'on va utiliser ces forces-là, la Tov. Velatov. Et donc on lit les parachats à Arayot parce qu'on est tout à fait capable à ce moment-là de l'enatev, de tourner ces forces-là vers le bien. Et c'est ainsi qu'on comprend les paroles du Gaon de Vilna qui va comparer les fêtes de Tishri à la vie d'un couple. Dit le Gaon de Vilna, Rosh Hashanah c'est Achoupa. Rosh Hashanah c'est quand le couple passe sous la Achoupa. Soukot, c'est Shivat Yemei Amishté. C'est la semaine de Shiva Brachot. Et Shmini Atzeret, Simchat Torah, c'est quand tu commences ta vie au quotidien dans ta maison. Aval Mazé Yom HaKippurim. Dieu Gaon de Vilna, Yom HaKippurim, c'est la Cheder Ichoud. C'est la Cheder Ichoud, le moment où tu t'unis à ta femme pour la première fois. Ce moment où toutes tes forces servent à dévoiler Akadosh Baruch Hu. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi dans un mariage, quand les gens accompagnent le Khatan et la Kala à Cheder Ichoud, ça chante, ça danse, tout le monde est content. Pourquoi tout le monde est content dans des mariages? Manitou avait l'habitude de dire, pourquoi dans un mariage tout le monde est content? Parce que c'est le seul moment, Baolam Hazeh, où Gam Yetzer Atov ve Gam Yetzer Hara rotzim oto davar. יום הכיפורים זה החדר איחוד בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אז כל העולם שמח בקדושת היום. עיצומו של יום הכיפורים מחפר. אני חשוב, parce que je fais partie d'un tout qui ne m'a pas oublié, et donc je peux me rattacher à cette grandeur. שיהיה שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולם. Et à très bientôt. Bye bye.